Et donc, excusez-moi, donc Florence commencera avec une présentation sur le néoconservatisme religieux, normativité de genre et sexualité. Merci beaucoup, Florence.
Merci beaucoup de cette invitation, ça me réjouit beaucoup. Donc, écoutez, comme je voulais vous faire part de plusieurs travaux qui ont été effectués sous ma direction ou la façon dont j'ai une boîte à outils autour de cette perspective de genre pour faire un peu une introduction, puisque dans le domaine des sciences sociales et humaines, ça a été une grande révolution, je ne vous apprends rien. Il s'agit bien d'un concept qui a été élaboré d'abord par des médecins, puis par les milieux féministes qui lui ont donné un autre sens, hein, qui était de dénoncer l'oppression des femmes. Et cette problématique est passée ensuite du côté de la recherche, un peu plus tardivement, notamment en France. Et il y a plusieurs interprétations, donc je vous donne la mienne. Je ne dis pas que c'est la seule, hein, mais la façon dont moi... Je trouve que cet outil est indispensable dans mes propres travaux et dans les travaux de beaucoup de mes collaboratrices et collaborateurs. C'est que ça a permis non seulement de garder cet héritage de ce qu'on appelait les études féministes sur la question de l'oppression, de la domination, de la répartition des sexes et des interdits, mais ça a permis de mettre l'accent sur le processus. Alors là, je vais un peu complexifier, pas seulement la différence des sexes qui pourrait supposer qu'elle est déjà là, mais sur la différenciation des sexes, c'est-à-dire comment les sociétés organisent une bicatégorisation ou au contraire rajoutent une tricatégorisation ou ne fonctionne pas de la même façon avec le masculin et le féminin. Donc différenciation, ce que disaient déjà les sociologues féministes dans les années 80, et aussi hiérarchisation. Donc je trouve que ce concept nous met tout de suite dans ce questionnement. Après, il y a plein de façons d'aborder cette question et peut-être qu'on peut continuer à travailler sur des ensembles femmes, contrairement peut-être à ce que d'autres considèrent. Moi, je considère qu'il peut y avoir un terrain, le terrain quel qu'il soit, vous avait déjà cette problématique. Donc ça permet bien sûr de poser la question des normes. On voit bien le lien avec le religieux tout de suite. Hein. Les normes, les symboliques attachées au masculin et au féminin et leur historicité. Ça, c'est aussi l'historienne qui y parle. Et puis les normes qui découlent de ces grandes catégories en termes de féminité, de masculinité, et désormais l'étude des hommes en tant que justement genre construit et des masculinités est en plein essor, y compris sur le domaine ou dans le domaine religieux. Et enfin, et là tout le monde ne fonctionne pas sur cette même définition, moi je pense que le genre me permet d'y inclure l'étude des relations à la sexualité, aux sexualités au pluriel, et que quand je parle de régime de genre, souvent je fais des conférences ou des formations où j'essaye d'expliquer la différence quand on passe d'un régime d'inégalité à un régime d'égalité dans la différence, puis à un régime, disons, qui serait plus d'indifférenciation, eh bien, j'y inclus comment les sociétés organisent aussi les sexualités. Ceci dit, il y a des chercheurs, notamment spécialistes des sexualités, qui considèrent qu'il faut différencier genre, concept de genre et études des sexualités de l'autre côté. Donc moi, je trouve que ma façon de travailler, si vous voulez, je définis tout de suite en disant, pour moi, si je parle de hiérarchie de genre, j'y inclus les hommes, les femmes, le féminin, le masculin, la féminité, la masculinité et les sexualités, ce qui me semble pour moi évident. Mais je comprends que des spécialistes de l'histoire ou de la sociologie des sexualités aient eu besoin, et c'est notamment Gaëlle Rubin, une anthropologue féministe qui a eu besoin de différencier le genre. À ce moment-là, le genre était un peu l'organisation normative de la bicatégorisation et la sexualité un champ qui devait être étudié à part. Donc voilà, ça c'est pour vous rendre compte, si vous voulez, de comment, à partir de cette définition, de cette problématisation, j'ai pu aborder en tant qu'historienne le champ de la laïcité et le champ religieux. Donc là aujourd'hui, on va parler plus spécialement du champ religieux. Et ce qui me semble intéressant, donc j'avais, si vous voulez, à la fois dans mes propres travaux, j'étudie les féminismes, à la fois les relations entre féminisme religieux et féminisme laïque et la sécularisation, et dans des travaux plutôt que j'anime, c'est-à-dire d'organisation et d'animation de recherche collective, qui est aussi un des aspects de notre métier de chercheuse, eh bien, j'ai essayé d'inciter mes collègues à s'y mettre, et donc de leur proposer de travailler notamment sur les normes de genre. Donc j'ai publié avec Maria Eleonora Sana, dirigé à un colloque qui a été un moment important, je crois, dans le champ des sciences sociales sur l'étude du religieux en France, parce qu'il n'y en avait pas eu autant que ça, sur normes religieuses et genre. Et à la fois c'était recomposition, mutation et résistance. C'est-à-dire que l'idée, c'est de sortir de l'opposition entre religion et politique, sortir de l'opposition où tout serait oppressif d'un côté, tout serait émancipation de l'autre, et essayer au contraire de comprendre les interactions, les interrelations, et de, si vous voulez, sortir de la polarisation d'un débat d'actualité pour aller vers une conceptualisation plus et une complexité surtout scientifique autour de ces questions. Une des choses qui m'a semblé aussi importante, notamment en France, parce que nous ne sommes vraiment pas très très nombreux à travailler sur ces questions, c'est de pouvoir aussi solliciter des gens qui ne sont pas forcément spécialistes des études de genre. Donc ça crée forcément des niveaux d'analyse qui ne sont pas les mêmes. Mais c'est très important d'avoir des spécialistes de champs confessionnels qui acceptent de poser ces questions. Ils n'y répondront pas forcément de la même façon, mais ils apportent des éléments extrêmement importants, en tout cas, ou d'études de cas, et ça permet aussi d'avancer et de peut-être de familiariser aussi un monde scientifique, et ce qui n'est pas toujours très simple pour les familiariser avec un concept, et d'autant que là je ne vous apprends rien, que ce concept est depuis quelques années l'objet d'une opposition extrêmement virulente de la part de mouvements politico-religieux en France et en Europe, et on peut dire dans le monde, particulièrement le monde catholique, et que on a été mis en cause très directement comme chercheurs, ce qui est quand même assez nouveau comme situation. Et si vous voulez, c'était pas seulement les résultats de nos travaux qui ont été mis en cause, c'était l'hypothèse même de ces travaux qui était de poser la question de comment les sociétés fabriquent de la différence en naturalisant ces différences. Donc de poser cette question devenait quelque chose qui était systématiquement dévalorisé ou mis ou stigmatisé négativement. Et j'ai dirigé pendant longtemps un institut qui s'appelait l'Institut, et qui s'appelle toujours l'Institut Émilie du Châtelet, et qui était un institut qui pendant 10 ans a été fondé à l'initiative de la région Île-de-France pour soutenir les études de genre, et qui, au moment du changement de majorité et quand la majorité est passée à droite, et notamment à cause de ces pressions des mouvements anti-genre, si on peut les appeler comme ça, cet institut n'aura plus de financement et a été fortement encouragé à ne pas resolliciter ses financements, parce que Valérie Pécresse avait dit très clairement « je ne financerai plus d'études de genre », et on lui avait demandé dans sa campagne électorale de se positionner là-dessus. Donc pour vous dire que ces enjeux scientifiques ne peuvent pas être totalement écartés des enjeux politiques, déjà parce qu'ils s'en nourrissent, et c'est pour ça que j'ai parlé de l'origine aussi féministe, donc aujourd'hui aussi des mouvements gays, lesbiens, queer, qui nourrissent ces questionnements. Donc il y a une interaction avec des mouvements sociaux, il y a une interaction avec des enjeux politiques et sociaux, et puis il y a comment on exerce son métier, comment on peut trouver des financements, et cet institut a eu la chance de pouvoir fournir des bourses à des doctorants et des post-doctorants, donc presque une centaine de bourses, et c'est sur 10 ans, c'est beaucoup, c'est important. Enfin voilà, ça va beaucoup manquer à la jeune recherche, cet outil. Donc espérons que d'autres prendront le relais. Mais l'ambiance n'est pas forcément très. Alors maintenant, les questions un peu théoriques qui ont traversé ce parcours, à la fois pour diriger des travaux et à la fois dans mes propres travaux, c'était d'abord pour éviter cette simplification de la religion comme tout oppressive. Donc c'était montrer à la fois des normes, et elles ont souvent un aspect extrêmement oppressif sur la région, sur la question des sexualités et des rapports de genre, mais par ailleurs de montrer toute la richesse des féminismes ou des mouvements aujourd'hui LGBT dans les mondes religieux et confessionnels. Et pourquoi c'est fondamental, donc je vous laisserai en parler plus précisément, mais pourquoi c'est fondamental? Parce que d'abord c'est extrêmement vivant, c'est peu connu, donc moi je travaille aussi sur ces mouvements plus féminisme en amont, donc 19e, 20e siècle. D'abord, c'est peu connu. Ensuite, quand c'est connu, on a peu réfléchi sur l'impact que ça pouvait avoir et les interactions, l'effet de réseau, l'effet aussi pionnier que ça peut avoir sur des problématiques égalitaires. Et c'est un champ donc aujourd'hui de découverte aussi historique et bien sûr sociologique et qui concerne les politistes. Et c'est donc important comme nourriture, si vous voulez, pour réfléchir. C'est important parce que ce sont des dynamiques, et c'est important parce que ce sont des incubateurs d'idées qui vont germer éventuellement dans des circonstances favorables. C'est-à-dire que le contexte est déterminant pour que ces mouvements, et qui peuvent être tout à fait mixtes d'ailleurs, au XIXe siècle, hommes et femmes, dans des mondes religieux qui militent pour l'égalité des sexes, donc soit en tant que, si vous voulez, croyants, on peut dire, pour lutter dans un féminisme, disons, universaliste, laïque, soit pour, et c'est plus rare, soit pour essayer de changer en interne, ce qui est, depuis le XXe siècle et le XXIe siècle, beaucoup plus fréquent. C'est-à-dire des mouvements qui sont intégrés à l'intérieur de mondes confessionnels pour changer de l'intérieur. Alors, bien sûr, ça va dépendre des capacités de ces mondes confessionnels eux-mêmes à... si vous voulez, à accepter ces minorités actives. C'est-à-dire que selon les modèles confessionnels et de hiérarchisation des autorités religieuses, il y a possibilité ou pas, et on sait bien que dans le protestantisme, où il y a essaimage de type secte, entre guillemets, dans le terme scientifique, il y a beaucoup plus de possibilités de dissidence religieuse et d'expérimentation religieuse égalitaire ou inclusive. Donc la question, c'était déjà de montrer l'importance de ces minorités, de montrer l'importance des marges, de montrer comment est-ce qu'on crée de l'égalité avec du religieux, comment est-ce qu'on recrée du religieux avec de l'égalité, hein, donc dans les deux sens, donc de l'innovation, voilà. En même temps, tout n'est pas forcément facile non plus, parce que dans ces féminismes religieux, il peut y avoir aussi volonté d'égalité, mais une des grandes frontières au 19e, début 20e, c'était justement la sexualité. C'était l'égalité partout, mais sauf dans un domaine, justement, qui va être la grande question du 20e siècle. Donc tout n'est pas non plus si simple, hein, c'est dans ces analyses, mais premier point sur lequel je voulais insister, c'est l'importance de l'étude de ces mouvements minoritaires inclusifs, égalitaires et inclusifs. Maintenant, ces mouvements sont d'autant plus importants qu'aujourd'hui on est dans un contexte plus individualiste, où il y a la pression des autorités normatives est moins forte, et on a parlé notamment Daniel Hervieux-Léger, de bricolage religieux, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité plus, évidemment, socialement plus acceptée de disons,
Voilà, accepter une norme, en refuser une autre. J'avais souligné dans un article au moment du mariage pour tous sur les implications religieuses et de sécularisation que ce bricolage religieux et cet individualisme pouvaient jouer aussi contre l'égalité dans la mesure où nombre de personnes pouvaient justement bricoler par rapport à leur propre vie sans se sentir forcément solidaire des autres. C'est-à-dire que le bricolage, il peut aller vers l'innovation, il peut aller aussi vers un certain conservatisme. Bon, moi, je me débrouille et finalement, je ne prendrai pas en considération l'impact que ça peut avoir sur le social. Ça peut jouer dans les deux sens, hein, pas forcément. Donc, dans ce contexte-là, beaucoup de nos collègues ont insisté et avec beaucoup de talent et beaucoup de conviction sur l'importance des individus, l'importance de ce qu'on a appelé l'agency, la capacité d'agir, la créativité et le fait que les paradigmes d'explication en termes de domination et de normes devaient être absolument revus par rapport à une religion vécue, par rapport à... Et ça me semble tout à fait salutaire et important de évidemment, et ça a un écho tout à fait en études de genre qui utilise et qui a eu finalement les mêmes interrogations autour de l'importance de la capacité d'agir des femmes notamment et de montrer même en histoire, dans l'espace public, l'importance des femmes qu'on n'avait pas forcément vues. Parce que quand on est dans un schéma juste sur comprendre les mécanismes de domination, on finit par oublier que les gens sont vivants, sont dans la rue, sont pas du tout confinés chez eux, les femmes ne sont pas confinées chez elles, et que donc, voilà, les catégories ou juridiques ou politiques ne sont pas forcément celles du vécu. Donc il y a aussi beaucoup de choses qu'on n'avait pas vues ou qu'on n'a pas vues. Et qui sont impulsés par ce regard, disons, du vécu et de la capacité d'agir des femmes au-delà des interdits, ou même à l'intérieur d'un cadre où il y a des interdits. Alors la question, donc je suis tout à fait consciente de l'importance de ce courant et j'y participe moi-même, mais je me pose la question par ailleurs, parce que travaillant sur les féminismes et travaillant sur les modes aussi d'oppression, de l'importance des autorités religieuses. Alors quid de ce pouvoir de domination, ce pouvoir normatif, quel est son impact dans ces mondes occidentaux, individualistes, démocratiques, bien sûr dans un contexte précis, quid de l'impact des autorités religieuses et de leur prise de position souvent assez, alors pas toutes, hein, donc déjà lesquelles et avec quel impact quand c'est dans des positions normatives plutôt anti-égalitaires ou opposées au mariage des personnes de même sexe, par exemple, récemment, qui a, disons, provoqué beaucoup d'études, hein, de travaux passionnants sur les réactions des mondes religieux. Et pour reprendre cette question, si vous voulez, ce pourquoi je plaide, c'est pour une plus grande, on peut dire peut-être, dialogue entre d'un côté le paradigme individualiste et de la religion vécue et de l'analyse par le bas, et un plus grand dialogue avec des analyses des modes, disons, de domination, des modes oppressifs, des modes normatifs de ces mondes religieux qui n'en ont pas le monopole, bien entendu. Il y a eu d'ailleurs beaucoup d'études sur les mondes religieux s'inspirent des études de genre sur d'autres modes de domination ou de relégation ou de ségrégation des sexes, ou de plafond de verre, comme on a proposé plafond de vitrail pour le monde religieux. Donc il y a beaucoup d'exportation ou d'importation des concepts d'études de genre dans les sciences sociales des religions pour comprendre ces modes d'inégalité ou de fabrique de l'inégalité. Donc une des questions, c'est l'accès des femmes aux responsabilités religieuses, aux sacerdoces. Donc c'est une des grandes questions qui met en si vous voulez, qui révèle le poids normatif et inégalitaire des autorités, donc évidemment pas partout, hein, et il faut bien sûr à chaque fois être dans les contre-exemples, mais donc on pourra y revenir si vous voulez, mais c'est quand même une des questions qui se redouble aujourd'hui de celle des personnes homosexuelles, et donc dont, là c'est plutôt Rémi qui peut en parler, notamment dans l'anglicanisme, les évêques, bon, c'est plutôt on y reviendra, mais ça va soulever les mêmes problématiques, c'est-à-dire la question que je pose, c'est quels sont les mécanismes qui fabriquent cette inégalité, quel est l'impact de ces autorités sur notamment les fidèles, et comment les stratégies de contournement, de résistance se mettent en place, quels sont aussi les enjeux donc de ces autorités religieuses dans un monde plus individualiste et plus démocratique, on peut dire. Donc ça c'est une des questions. L'autre question sur les autorités religieuses, donc disons d'une part en interne, quel est l'impact? Alors après, il y a aussi, par exemple, étudié par Céline Béraud, l'introduction des petites filles comme enfants de cœur, les résistances. C'est-à-dire, voilà, qui va normer, qui va exclure, quels sont les moyens qui sont mis en œuvre. Alors, il y a aussi l'exemple Marie Guette que va publier Blandine Chellini, qui a travaillé sur les religieuses américaines qui ont été une des congrégations de mères supérieures américaines qui ont pris des positions très favorables, notamment à l'Obama Care, et qui soutiennent le mariage de même sexe, qui soutiennent les mouvements pro-choix, qui ont subi un blâme et qui sont en examen pour savoir si on les exclut ou on les excommunie ou pas. Enfin voilà, il y a des modes de régulation autoritaire religieuse qui me semblent intéressantes à re-questionner, même si on semble les connaître mieux que cette religion vécue et ses résistances par le bas, mais il me semble qu'elle mérite d'être, et surtout qu'elle mérite d'être aussi, de les garder en tête, si vous voulez, pour comprendre on pourrait peut-être dire cette dialectique entre, d'un côté, des résistances, et donc la question, et de l'autre côté, des recompositions aussi d'autorités religieuses, d'où la proposition que j'avais faite à plusieurs de mes collègues, dont Rémi, que je remercie, de travailler sur l'idée de néoconservatisme politico-religieux, donc néoconservatisme religieux, donc d'essayer d'exporter ce concept de néoconservatisme qui est vraiment un concept politiste né aux États-Unis, et d'essayer de l'appliquer au monde religieux, et en même temps de travailler aussi sur les résistances, mais de mettre en avant des stratégies bien spécifiques et qui sont communes à beaucoup des autorités religieuses depuis notamment 1994 à la conférence du Caire où se rencontrent les autorités, et une initiative du Vatican d'essayer de créer un mouvement transnational et transconfessionnel directement contre l'égalité et les mouvements gays et lesbiens. Donc voilà, c'était ces questions-là que j'avais envie de poser, et essayer aussi de comprendre la résistance du symbolique, c'est-à-dire est-ce que ces figures d'autorité, donc qu'Alexandre Kojève notamment avait étudié, le père, le maître, le chef, le juge. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes juges. Lui, il écrit dans les années 40. Mais ces figures, pourquoi résistent-elles aussi si fortement dans leur masculinité, dans les imaginaires? Et dans l'imaginaire, c'est le refus d'une incarnation, c'est vraiment des corps, du corps des femmes, mais aussi du corps des homosexuels qui sont toujours dans l'imaginaire renvoyés au féminin, donc qui subissent la même, disons, le même amalgame que ce refus, et d'où l'importance de travailler aussi sur ces figures, cette résistance de la masculinité et de ces figures. Et pour conclure, aujourd'hui vous avez donc il y a un doctorant de Paris 8, Jocelyn Tricou, qui travaille sur justement les masculinités dans le catholicisme, et il y a récemment, vous avez peut-être vu des reportages ou dans Le Monde, des stages de masculinité qui sont proposés. Donc si vous voulez, il y a une sorte de volonté de refondation d'une masculinité normative qui non seulement, si vous voulez, veut mettre en place une certaine idée, voire idéal, de rapport homme-femme qui exclut l'homosexualité et qui est dans la complémentarité, la différence. Donc une chose est de vouloir s'épanouir dans sa différence, une autre chose est de l'imposer à une société tout entière. Ça me semble vraiment extrêmement... différents, hein, le stage de remise psychologique, ça ne nous regarde pas, quelque chose qui a un impact idéologique directement sur des projets, et donc je pense que travailler aussi sur ces figures, cette perspective androcentrée masculiniste qu'avaient beaucoup étudié et qu'étudient encore les théologies féministes ou les théologies inclusives, me semble être quelque chose d'important à reprendre aussi en main avec les outils, justement, des études de genre et des études queer, qui sûrement affineront beaucoup ce que je viens d'exposer très, très brièvement. Et puis, redire aussi que l'impact de ces mouvements, c'est aussi un discours qui n'est pas seulement contre le genre, mais qui est aussi contre une forme de démocratie. Et il y a un article de Romain Carnac, qui est aussi un jeune doctorant qui a travaillé sur ces mouvements, qui a étudié les références à la démocratie dans ces discours, notamment catholiques, et la mise en cause de ce que ces discours appellent la démocratie égalitariste. Donc cette espèce de mobilisation aussi contre un monde séculier qui serait... en cours de dégénérescence, mais c'est pas seulement sur le genre, c'est aussi que le genre, comme le dit très bien John Scott, c'est un mode d'organisation des rapports de pouvoir en général, et que donc c'est aussi une attaque contre une certaine idée de l'égalité, de la liberté individuelle, et donc une certaine délégitimation du politique et de la société civile pour gérer la liberté des individus. Voilà, je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup, Florence.